France Inter.
Artiste multicarte à la voix délicieusement rauque et enveloppante, Arthur H. s'est encanaillé dans la musique, l'écriture, la bande dessinée, le théâtre et le cinéma. Auteur des albums L'Homme du Monde, Trouble Fête, Adieu Tristesse, Baba Love ou Soleil dedans et du recueil de contes poétiques Le Cauchemar Merveilleux, il a créé avec Wajdi Mouawad le spectacle Mort prématurée d'un chanteur populaire dans la force de l'âge au théâtre de la Colline. Il vient de faire paraître chez Casterman La solidité du rêve, une bande dessinée illustrée par Alfred, et tient le premier rôle dans le dernier film de Tony Gatliff en salle mercredi. Il y incarne Ange, un ethnomusicologue vivant dans un van qui cherche à retrouver un ami disparu pour lui rendre de l'argent. L'occasion de retrouver des femmes qui ont partagé sa vie en acceptant son besoin viscéral de liberté et de partir sur la route avec une jeune femme imprévisible qui affirme être sa fille, le tout ponctué de musique gitane et de percussions improvisées sur de l'eau ou sur un balai. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Arthur H.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé ?
De respirer, vraiment les choses, plus le monde devient dramatique, plus les choses extrêmement simples deviennent assez merveilleuses. Donc j'ai pas besoin de beaucoup de choses pour m'émerveiller, c'est vraiment juste marcher quoi. Marcher, me dire je suis vivant, c'est fou.
Vous parlez de la respiration et vous dites justement que vous avez eu une enfance heureuse, mais marquée par l'angoisse de la mort à cause de la maladie, puisque vous étiez très asthmatique.
Truc pas très...
Bah oui, mais très... si.
J'ai eu une enfance très heureuse, marquée par l'angoisse de la mort. Avec beaucoup de cauchemars, assez très heureux, des cauchemars, vraiment très joyeux, des joyeux cauchemars. Et attends, j'ai eu une enfance heureuse, oui. Et j'ai eu des crises d'angoisse, oui. Parce que, effectivement, j'avais des grosses, grosses crises d'asthme. Et l'asthme, c'est vrai, on croit qu'on va mourir, oui. Donc c'est contradictoire, mais en même temps, ça s'appelle la vie, quoi.
Parce que je vous ai demandé le secret de votre voix, parce que j'aimerais bien avoir la même. Et j'ai fumé, mais ça n'a pas fonctionné. Et en fait, vous, c'est pas la cigarette.
Non, moi, j'aime pas trop la cigarette, à part éventuellement quand je bois de la vodka ou ce que je ne bois pas, d'ailleurs. Mais si je bois un petit coup, je trouve ça très agréable. La cigarette, il y a quelque chose de philosophique, comme ça. On sait que c'est mauvais, mais on s'en fout. Du coup, c'est le plaisir, on est d'autant plus grand. Non, non, oui, c'est ça, j'ai une gorge un peu fragile, enfin qui était fragile.
Adolescent, donc je passe de l'enfance à l'adolescence.
Vous direct.
Bah oui, parce qu'on parle de la gorge. Alors là, je vais sonner New Wave, mais vous êtes New Age, mais vous étiez incapable de communiquer avec les autres. Vous l'avez fait par la chanson.
Oui, c'est vrai, un DJ a sauvé la vie de Madonna.
Et, c'est vrai.
Et moi, la musique a sauvé ma vie, ouais. Vraiment, littéralement, quoi. C'est vrai que j'étais très enfermé dans moi-même, sûrement par ma faute, par la... ou peut-être comme beaucoup de gens qui sont peut-être très sensibles et qui ont tendance à... enfin, qui ont un besoin de se réfugier dans leur propre monde, leur propre coquille, quoi. Ce qui est une façon de se défendre, de se préserver, mais qui n'est pas très efficace, pas très malin non plus.
Si, ça crée des œuvres.
Ça crée des œuvres, ouais, ça crée un monde imaginaire en tout cas. C'est vrai que pour moi, pendant très très longtemps, le monde imaginaire et le monde intérieur étaient non seulement beaucoup plus réels, mais avaient beaucoup plus de valeur à mes yeux, quoi.
Vous dites qu'être artiste, ça part toujours d'une forme de névrose et d'une chose insupportable dans le monde réel qu'on doit fuir à tout prix. C'était quoi pour vous cette chose insupportable ?
L'existence.
Bah oui, ça oui. Ça évidemment.
Je sais pas, le mal-être existentiel, quoi. Oui, c'est peut-être cette sensation de ne pas être de ce monde, quoi. D'être un extraterrestre catapulté dans un monde où il n'y a pas les codes. J'ai ressenti ça quand même très très longtemps dans ma vie. Ouais.
À cause de la maladie?
À cause de quoi? Il y a plein de raisons, je sais pas, ou peut-être tout simplement je n'aimais pas ce que je voyais. Je n'appréciais pas ce que je voyais, je me sentais pas chez moi, quoi. Non. Et puis finalement, on est là, et puis finalement, la vie, pour moi, est maintenant une expérience vraiment joyeuse, quand même, fondamentalement. Donc mais j'ai conscience, quand même, toute cette trajectoire qui est la nôtre, m'a donné conscience de l'ombre, de la réalité de cette ombre jungienne ou pas jungienne, comment on l'absorbe, comment on l'accepte, comment on l'intègre. Et le fait d'être artiste, ça, c'est une des chances des artistes, c'est qu'ils peuvent alchimiser l'ombre, quoi. Qu'ils peuvent ça devient de l'humus. Au lieu d'être une douleur ou un empêchement ou une fuite et de construire un personnage, on se sert de tout ça comme un espèce de terreau fertile et puis on en fait un truc qui peut avoir une certaine beauté ou un certain intérêt.
Alors en parlant de fuite, récemment vous étiez en tournée avec Loïc Guénin et trois musiciennes du trio En Papier pour un concert dont le sous-titre était « Une esthétique de l'effacement ». Et vous avez fait une fugue à 15 ans, votre mère aussi a fugué. Oui. Est-ce que vous avez déjà été tenté par la dissolution ou la disparition?
Moi je suis très mystique, alors c'est vrai que quand on médite ou qu'on est dans la nature, il y a une forme de dissolution mais qui est très agréable en fait. C'est vrai que sortir de soi, c'est quand même extrêmement agréable parce que soi, c'est bien, mais il y a tellement de limites. C'est aussi une prison et c'est aussi un enfer d'être soi. Donc, à un moment, il faut prendre de l'air et il faut... je pense que chacun peut trouver des techniques, des technologies pour, à un moment, s'oublier complètement... dans ce qu'il fait, dans ce qu'il aime, dans le monde, dans l'amour, dans tout ce qu'il veut, quoi. Mais je pense que c'est nécessaire de vraiment de s'oublier complètement. Moi, je le fais dans la musique, alors c'est naturel. J'ai aucun souvenir des concerts, par exemple, parce que je suis tellement dans le son, dans l'acte, comme ça, de vibrer et de vibrer avec les gens, que je m'oublie complètement. Je pense pas du tout à moi, et c'est très agréable.
Il y a un moment où vous êtes peut-être sorti de vous-même, enfin, c'était une expérience à hallucinogène lors de votre fugue justement à l'âge de 15 ans, Arthur Ashe, en Guadeloupe. Et il paraît que vous n'avez...
Arthur Ashe en Guadeloupe, ça fait comme
Arthur Ashe en Guadeloupe.
Au Congo et Arthur
avec
Ashe
des cauchemars merveilleux et une enfance heureuse, émaillée
d'angoisse de la mort.
Mais alors, ce qui m'a frappé, c'est que vous disiez de cette expérience qu'elle vous a fait voir la vie en couleur alors qu'avant vous la voyiez en noir et blanc.
Oui, parce que malheureusement, quand j'étais adolescent, c'était l'époque de la Cold Wave, comme son nom l'indique. Il y avait Joy Division, comme son nom ne l'indique pas. Et j'écoutais cette musique-là, et puis j'étais, peut-être que j'étais désespéré, ou peut-être que je jouais au désespoir. J'ai raté le punk, parce que il y avait ce côté no future, comme ça, puis les lectures aussi étaient quand même assez pessimistes.
Qu'est-ce que vous lisiez?
Je ne considère plus maintenant que Artaud est pessimiste, mais Antonin Artaud, mais c'est violent quand même. Lui-même avait un mal-être quand même assez gigantesque. Donc je lisais Baudelaire, c'était un peu romantique aussi, vraiment c'était très... Je romantisais mon mal-être, quoi. Et puis j'étais à Paris, dans le centre de Paris, qui à l'époque était un quartier populaire, mais j'avais pas d'air, et pas de lumière, pas d'air. Pourquoi? Je sais pas, encore une fois. Et cette expérience psychédélique que m'a offert mon père à 15 ans, auquel je m'attendais pas du tout, j'avais aucune idée préconçue, a changé ma vie. Ça a ouvert un rideau, en fait. Et j'ai vu un autre monde, un monde en couleur, effectivement, un monde vibratoire aussi. Et j'ai pas eu le besoin de me redroguer après. C'était vraiment une expérience initiatique, dans le sens premier du terme, quoi. Une initiation à un autre état.
La 20e heure. Eva Bester. Sur France Inter.
Arthur H., vous avez rencontré le réalisateur Tony Gatliffe lors d'une émission de radio où Brigitte Fossé vous avait invité tous les deux.
Brigitte Fontaine.
Ah, Brigitte Fontaine.
Oui.
Mais c'est pour ça que personne n'a trouvé cette émission.
Ah oui. Oui, c'est vrai, c'est une fausse erreur. C'est une erreur pas vraie.
Bah oui.
Parce qu'on a déjà sorti Brigitte Fossé.
Mais je crois que ça a été imprimé comme ça.
Peut-être. Mais oui. En tout cas, c'était Brigitte Fontaine.
Parce que j'étais très étonnée que ce soit Brigitte Fossé.
C'était pas elle.
Ah oui, bon, bah
elle
alors c'est
pas
beaucoup
là,
plus logique, c'est beaucoup plus logique.
Elle était dans sa maison, tranquillement.
L'autre Brigitte.
Brigitte Fossé, elle était chez elle. Elle n'est pas venue, en tout cas, ce jour-là.
Bon, bah imaginez qu'on vient de passer l'archive de votre rencontre avec Tony Gatliffe et vous êtes très ému. Comment c'est fait? C'était il y a combien de temps?
Alors ça, je sais pas, mais c'était à peu près... Entre 5 et 10 ans, à peu près, en gros,
ouais,
quoi, précisément.
Oui, c'est très précis. Ouais. C'est votre premier grand rôle et vous dites que ça a été à la fois une épreuve et une grande joie de jouer Ange dans le film du même nom.
Bah, Tony Gatliffe, c'est une aventure. Il propose toujours une aventure, donc déjà, ça, c'est assez délicieux. Et c'est un cinéaste que je connaissais, qui m'avait déjà beaucoup touché, fait quand même son cinéma, c'est souvent des road movies comme ça, des aventures où on sait pas où on va, et moi c'est un type de cinéma qui me touche beaucoup, un peu voilà, Fellini, enfin David Lynch, ça, le film commence et tout de suite t'es perdu, en fait tu sais pas où tu vas, et il y a beaucoup de surprises, et il y a ce côté, voilà, encore une fois délicieux d'aller vers l'inconnu comme ça. Tony a ça, donc j'étais très heureux, et évidemment, un tournage, c'est toujours une aventure pour tout le monde, tous les gens qui y participent.
Et pourquoi l'épreuve, alors?
Bah, l'épreuve, parce que moi, j'aime bien faire des choses que je ne sais pas faire, par exemple, être acteur de cinéma, mais ça fout la trouille, quoi. Ça fait vraiment peur, parce que tu ne sais pas si tu vas y arriver. Et d'ailleurs, Tony, au bout de 3 jours, il m'a juste dit... Bon, ça va, je me suis pas trompé. Mais ça veut dire que lui-même, il avait pris un risque, vraiment, un vrai risque.
Je t'ai préparé ton lit.
Tu sais, je dors à Belle Étoile maintenant, ou dans mon van, pas entre quatre murs.
Toujours tes superstitions.
Je reviens de loin. J'ai failli y rester.
Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je vois que tu aimes toujours qu'on te pose des questions.
On vous entend dans Ange de Tony Gatliffe en salle ce mercredi. Un extrait auquel on a ajouté un autre extrait musical de l'album Persecution que vous déterrez à un moment dans le film.
Oui.
Ce sont les poèmes de Félix Grandet composés en 1974 sur une musique de Juan Peña Fernandez. Vous êtes Ange, un ethnomusicologue insondable. Connaissiez-vous déjà la culture gitane avant de faire ce film?
Oh bah en tant que musicien, oui, bien sûr, oui. Surtout dans les années 90, en fait, il y a eu l'irruption de Taraf de Haïdouk, et une espèce de mode, mais qui était géniale, de musique gitane, zigane.
Rome en général, parce que les englobe tous, et gitan, c'est plutôt du côté de l'Espagne.
Oui. Il y a des points communs, enfin Tony il en parle très bien, mais après c'est deux choses, deux cultures différentes, mais c'est une culture importante en Europe qui était et toujours d'ailleurs très oppressée, c'est une culture très oppressée, mais avec une musique quand même qu'on peut qualifier d'extraordinaire, qui touche un peu, comme certaines musiques, à l'essence de la musique, l'essence de l'excitation de la musique. Là, c'est vrai que là, donc dans le film il y a 4 musiciens du Taraf de Haïdouk, donc 3 qui étaient là au début de ce petit village roumain qui était une espèce de fabrique de musiciens incroyables. Et eux, maintenant, ils sont un peu vieux, tout ça, ils sont un peu rincés par tout ça, mais par contre, dès qu'ils jouent, il y a une espèce d'excitation extraordinaire qui arrive, qu'ils savent exactement où toucher pour créer ça. Et Joseph Kessel, j'avais lu un bouquin à l'époque justement de Joseph Kessel qui était absolument magnifique, où c'est un type qui est bloqué à la frontière russe dans une espèce de petit hôtel cabaret, puis il tombe amoureux d'une zigane et il parle très très bien de comment cette musique nous fait sortir de nous-mêmes, justement, dans une forme de joie excessive, mais magnifique.
Tout le film est ponctué de musique, la musique est un personnage à part entière, et d'ailleurs, ouais. On vous voit en écouter, on vous voit même jubiler physiquement, en remuant en tous ouais, sens. Ouais. Est-ce que c'est comme ça que vous écoutez de la musique dans la vie ?
Pas en jubilant, mais quand même, ça peut m'arriver de jubiler très fort tout seul. En fait, quand on rentre à l'intérieur de la musique, qu'on se laisse pénétrer par la musique, et on a des sensations très physiques, quoi, c'est sûr.
Ange, il vit dans son van, il est sans cesse sur la route, il n'a pas d'attache, il ne possède que des cassettes. Est-ce que sa liberté vous fait fantasmer et avez-vous des points communs avec lui ?
Oui, j'ai des points communs aussi avec Tony, a des points communs avec Ange aussi. Après, Ange, c'est un personnage qui a beaucoup changé dans l'écriture du scénario et qui n'a pas que des points positifs. Il est libre, certes, mais il fuit aussi. Voilà, c'est toute une question. Il a décidé de ne pas s'engager dans rien, qui lui donne effectivement une forme de liberté, certes. Mais après, c'est pas un modèle non plus.
Alors, il cherche un ami et il retrouve la femme de cet ami qui lui dit que tous les deux, ils sont comme des gitans, sans être gitans. Parce qu'ils disparaissent, ils réapparaissent, ils ne possèdent rien. Qu'avez-vous de gitans ?
Je pense vraiment, vraiment un goût de la liberté. Je suis pas du tout gitan, tout ça, mais Tony, il arrête pas de répéter que la force, justement, de ce que lui, il assimile à une philosophie, c'est d'être complètement dans le présent et de se moquer totalement et du passé, ce qui est surprenant, et du futur, quoi. C'est-à-dire que pour lui, les gitans qu'il a rencontrés se moquent du passé et du futur, et se moquent, par exemple, de l'argent aussi. Voilà. Et s'ils ont beaucoup d'argent, ils le dépensent, mais il n'y a pas d'idée de prévoir le futur, d'économiser, ça n'existe pas. Enfin, de manière un peu abstraite, bien sûr, mais... Moi, ça peut me parler. Je peux être très très bien aussi. J'adore me promener tout seul, me perdre par exemple, et avoir l'impression d'être de nulle part et d'appartenir à rien, à aucune culture, à aucun pays. Ça, c'est quelque chose qui peut vraiment me parler aussi.
On revient presque à l'état méditatif que vous évoquiez en début d'émission. Dans le film, justement, la chose frappante, c'est que la musique est très importante, le rythme est très important, mais le souffle et le silence aussi. Et il y a plusieurs scènes où vous frappez des rythmes sur la surface de l'eau, par exemple, où il y a un moment, quelqu'un qui joue de l'accordéon, mais sans produire de son. On n'entend que le souffle de l'accordéon. Il y a un éboueur gitan qui vient jouer du ballet. Et c'est le rythme qu'on entend, un rythme très, très musical. Est-ce que ça a été déroutant pour vous de faire de la musique sans son ?
Oh, pas du tout, au contraire, c'est extrêmement naturel. C'est la musique sans son, ça n'a rien à voir avec Véronique Sanson, bien sûr.
Non, de la musique sans notes, c'est plus correct.
Sans notes.
Qui était avec Brigitte Fosset, d'ailleurs.
Ouais. J'étais dans un restaurant italien.
Oui.
Ouais. Brigitte avait commandé des pâtes.
On a retrouvé l'enregistrement.
Oui. Et Véronique, oui, c'était plutôt pizza, Véronique.
Oui.
Et en fait, la musique, comme ça, sans notes, c'est un peu l'essence de la musique, c'est-à-dire que c'est la pulsation intérieure que tu as en toi et qui finalement, un jour, va évidemment, si tu es musicien, se traduire grâce à un instrument ou pas. Et là, c'est des percussions corporelles, il y en a pas mal, il y a ce rapport-là, mais c'est vraiment parce que Tony, Tony Gatliff est un vrai grand musicien. Il sent la musique, il la vit de l'intérieur. Et Et fatalement, bah, quand tu avances dans la musique, tu vas vers l'abstraction et tu vas vers cette fameuse pulsation première quoi, qui est à l'origine de la musique. Le cœur qui bat, hein, ne serait-ce que ça. Hein.
J'ai jamais fait la route en solitaire.
Non.
La seule route solitaire que j'ai fait, c'est la route intérieure, parce que sinon, toute ma vie, j'ai toujours voyagé en groupe. Quand la chanson arrive, je la regarde, je vois quelle est sa langue, quelle langue elle veut parler. Et c'est très simple, c'est très instinctif, je me pose pas trop la question. De toute façon, l'inspiration est une chose assez mystérieuse. On peut attendre longtemps et souhaiter faire des choses, et tout d'un coup, il y a une idée, une étincelle qui fait naître une chanson. Puis on sait pas vraiment pourquoi à ce moment-là, et pas il y a 2 semaines, et pas il y a 2 mois. Et c'est la même chose. Comme je parle les 3 langues, l'étincelle arrive en une langue et ça continue comme ça.
Arthur H, j'ai voulu vous faire entendre la voix de Lassa. Oh, je suis désolée, je ne pensais pas que ça vous...
Je ne m'y attendais pas, mais c'est super, c'est cool. Je ne pense pas beaucoup à elle, mais là, elle était tellement présente, c'était tellement elle, là, quand on raconte ça, j'avais l'impression qu'elle était là, quoi. Ça m'a fait pleurer, mais...
Je ne pensais pas que vous seriez aussi ému, c'était pour parler du mot qui revient dans le film, qui est bourlingué.
Ah oui.
Et de vos voyages, et du fait que vous... Vous avez bourlingué à Montréal, Montréal c'était la ville de Lhasa et de Leonard Cohen, et que Lhasa c'était votre grande sœur.
Oui, vraiment, c'est vrai que quand on écoute sa voix, Lhasa, je dois dire, était vraiment quelqu'un d'exceptionnel, quoi. Elle était d'une finesse, une sensibilité hors norme quand même. Et puis... je pense que c'est peut-être la seule personne que j'ai rencontré qui avait vraiment concrètement de la magie autour d'elle, quoi. Quand t'allais chez elle, c'était magique dans le sens premier, tu vois, d'envoûtement, mais très simple, hein. c'était pas une sorcière, elle jetait pas des sorts aux gens, elle m'a prêté son appart plusieurs fois à Montréal, comme ça, quand elle était pas là. Et même quand elle n'était pas là, il y avait son atmosphère, quoi. Elle avait une atmosphère autour d'elle, une espèce d'aura comme ça. Et elle poussait tous les gens très naturellement, comme ça, uniquement par sa présence, à se dépasser, à prendre des risques, à être plus intègre, plus... Elle était comme ça, là, ça. Et puis on rigolait beaucoup aussi. C'était... Comme je l'adorais, et aussi qu'elle m'aimait bien, bah, on passait notre vie à dire des bêtises, des conneries.
Ce qui est le vrai sens de la vie, quand même.
Ouais.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
À la fin de l'été, nous dansions enlacés. Si belle, la lumière est mortelle. À la fin de l'été, blottie dans mes bras, la lumière est si belle, la lumière est mortelle. J'appelle la nuit qui vient nous embrasser.
Sur H, on entend la chanson « Danser la nuit » que vous avez composée avec l'une de vos filles, je crois.
Non, je ne l'ai pas composée avec elle, mais elle fait un rap dedans un peu plus tard.
Liuba.
Liuba, ouais.
Et c'était pour la bande dessinée « La solidité du rêve » que vous avez faite avec le dessinateur Alfred, paru chez Casterman. Vous avez une passion commune tous les deux, c'est Fellini. Fellini notait ses rêves.
Oui.
Est-ce que vous le faites aussi ?
Pas en ce moment, non. Je ne note pas mes rêves, non.
Et vous l'avez déjà fait, vous dites pas en ce moment ?
Oui, je l'ai déjà fait, bien sûr. Et puis, par exemple, dans le film Ange, il y a un thème à la fin que j'ai composé, qu'on joue. Et ben ça, c'est très rare, mais c'est un thème que j'ai entendu en rêve.
Vous entendez de la musique en rêve ?
Rarement, mais là, en l'occurrence, Tony m'a dit « Est-ce que tu veux penser à un thème ?» Et je l'ai entendu en rêve, je me suis réveillé, j'étais au piano, je l'ai joué. Et donc ça, oui, c'est une source d'inspiration.
Alors, pour cet album, y a une histoire assez loufoque qui pourrait être celle d'un rêve, puisque vous jouez vos personnages dedans. Enfin, vous jouez. Fred visite des théâtres abandonnés pour les dessiner, et derrière une porte, il trouve une sorte de jardin magique dans lequel vous êtes dans un hamac avec plein d'objets, dont des cartes de tarot par terre. Pouvez-vous raconter la jeunesse de ce projet ?
Oh bah Alfred est un dessinateur extrêmement sensible et qui a un art du carnet, du croquis, pratique le justement avec un aspect très très proche de ses rêves comme ça, de transcrire le monde de ses images, de ses sensations directement comme ça dans les images qui, avec le son, peut-être le langage le plus archaïque et le plus direct en relation avec le subconscient, donc il fait ça très bien. Et on l'a invité dans la tournée, et je trouvais qu'il avait une façon de dessiner la musique qui était remarquable, parce qu'à la fois, il croquait le moment, ce qui se passait sur le moment, les musiciens en train de jouer, et en même temps, l'imaginaire du morceau, et il le mettait, voilà, dans un espèce de contexte comme ça, un petit peu fantastique, qui finalement devenait très réaliste, retranscrivait vraiment l'énergie de ce qui se passait sur le moment, qui est toujours un moment qui se passe dans l'imaginaire, quoi. Voilà. Et ensuite, on a eu envie d'aller plus loin et de raconter une histoire ensemble et de créer quelque chose, parce qu'on est tous les deux obsédés par la créativité, et puis voilà, on s'est reconnus.
D'abord, j'établis un arbre généalogique. Je regarde la famille, les frères et sœurs, jusqu'aux arrière-grands-parents. Alors, je tire mes conclusions sur les causes des problèmes. Il me faut une heure pour proposer un acte de psychomagie que la personne doit elle-même accomplir. Elle devient son propre guérisseur. La magie, c'est tout ce qui est mystérieux et positif dans nos vies, mais on ne sait pas ce que c'est. C'est le monde inconscient, le monde mystérieux qui est dans notre esprit. Personne ne connaît totalement son esprit. C'est la même chose avec notre planète Terre. On ne sait pas totalement de quoi elle est faite. On ne sait pas non plus comment ni pourquoi l'univers a été créé.
Je voulais qu'on entende le cinéaste et artiste Jodorowsky sur la psychomagie. Là, il parle sur Euronews en 2020, parce que Arthur H., vous apparaissez et vous avez chanté dans son documentaire
oui.
Psychomagie, un art pour guérir. Et j'y ai pensé à cause des cartes de tarot qu'il y a dans votre bande dessinée.
Ah oui.
Et parce que Jodorowsky a aussi fait un jeu de tarot.
Oui. Enfin non, il a disons, ressuscité un jeu de tarot ancien.
Ouais. Mais il l'utilise.
Pas... Oui, il l'utilise. Oui.
Quelle a été votre expérience en psychomagie ?
Eh bien, une grande expérience, parce que Alessandro Jodorowsky, voilà, qu'on apprécie ou pas, il est unique. Parce que c'est à la fois un vrai thérapeute qui a inventé une méthode de thérapie, la sienne, avec la psychogénéalogie, les actes psychomagiques et tout ça, et en même temps un artiste, un vrai artiste, ce qui est rare, je pense qu'il y a très peu de thérapeutes qui sont des artistes ou des artistes qui sont des thérapeutes. Lui, il a assumé le fait d'être les deux ensemble, donc ça m'a parlé, et ensuite, de travailler avec lui, ça m'a montré que tout ce qu'on pouvait faire, mettre en scène un petit peu, et c'est l'essence d'un acte psychomagique, a éventuellement un pouvoir de transformation sur sa vie. Et depuis, cette idée, je l'ai complètement intégrée. Et tout ce que je fais, je le fais dans ce sens-là.
On revient à l'alchimie.
Ouais, comme un processus alchimique, voilà, d'englober, de se transformer, d'aller plus loin, de sortir de ses limites. Voilà, si j'écris une chanson, je fais un disque, une tournée, pour moi, c'est un acte psychomagique.
Et par exemple, quand dans la bande dessinée, Alfred dessine votre père qui apparaît dans le ciel, parce qu'on croise plusieurs morts, on croise aussi Trintignant.
Et Brad Scott aussi, ouais.
Ça, c'est le même processus ?
En tout cas, de faire cette bande dessinée, oui, parce que c'est se transformer en personnage plus grand que nature, donc c'est un jeu, c'est jouer avec soi-même, donc c'est ne pas se prendre au sérieux, disparaître. Alfred, il me dessine un espèce de grand mec à des grandes enjambées, comme ça. Moi, j'adore, c'est pas moi, mais en même temps, c'est moi aussi, quoi. Et après, quand j'ai découvert, dans cette, quand la, il illustre la chanson Cosmonaute père et fils, voilà, le visage de mon père.
Parce qu'il y a plusieurs
père,
de vos chansons dans l'album.
Oui, voilà. Le visage de mon père en énorme dans le ciel, avec moi, petit cosmonaute. Parce que dans cette chanson, au début, je dis papa est cosmonaute. Après, je dis moi, je serai cosmonaute. Et à la fin, je dis je suis cosmonaute. Et ouais, c'était un choc, mais c'était un choc, c'était drôle, quoi, de voir mon père comme ça, comme une espèce de, d'immense présence dans le ciel, ce qu'il est maintenant, d'ailleurs.
C'est quoi votre rapport aux morts ?
C'est un rapport assez animiste, hein, je suis assez animiste, ouais. C'est-à-dire que il y avait un très beau conférence, ou je sais pas, de Maya Angelou, là, qui, elle dit, dès que tu arrives quelque part, tu convoques tes morts. Tous les gens qui ont pensé du bien de toi, ils sont avec toi, quoi. Qu'ils soient morts ou vivants, ça n'a aucune importance. Ça, moi, j'y crois beaucoup que les morts, nos morts aimés, les gens qu'on a aimés, deviennent vraiment des alliés. Mais pour moi, c'est assez concret, en fait. C'est pas juste une croyance comme ça, un peu bizarre. Je les sens et... Les gens qu'on aime qui meurent nous rendent très tristes parce qu'ils sont plus là et on peut plus les toucher, on peut plus leur faire de câlins ou les aimer ou rire avec eux. Donc on est très triste, on souffre terriblement au début, en tout cas de leur absence. Mais en même temps, faut avouer que quand ils partent, ils nous font cet énorme cadeau de nous enrichir et de nous agrandir, quoi, de par leur présence intérieure. Donc, vivre avec ses morts, c'est... Ah ouais, c'est important, c'est une grande richesse, une grande richesse.
Arthur H, on voulait passer en standard une de vos chansons ce soir. Donc ça, c'est mon choix. C'est la chanson de Satie avec Feist et Eric Satie, bien entendu, car nous savons maintenant que la mort n'est pas une limite. Et voici votre choix musical.
Querer uma rigade, por só ver lá porque não cai no meu tecicão. Jogar-se cada guiri, de querer uma rigade, por só ver lá porque não cai no meu tecicão. Ai, tique tique, fala temerão.
Qu'est-ce qu'on entend?
C'est une chanson de Zigane qui est dans le film. Une scène très importante du film où je me lave les dents en
écoutant... Donc Ange de Tony Gatliff.
Ange de Tony Gatliff, qui sort mercredi.
Oui, ça on l'a dit déjà.
Dans toutes les bonnes salles. Et c'est une scène où je me lave les dents en écoutant de la musique et je trippe et je me suis laissé aller. Alors, en fait, moi j'ai adoré ce moment, mais quand je le vois, je me dis que j'aurais pu encore danser encore plus. Mais je danse en me lavant les dents et voilà... Bon, j'étais grassement payé par l'association des
brosses à dents, Tigane.
Des dentistes français, parce que là, on n'a qu'une mâchoire dans la vie, c'est important.
C'est vrai.
Oui.
Il faut la soigner. Et je dis quand même pour les auditeurs qui aimeraient avoir la référence de ce morceau, c'est Chiki Chiki de Tony Gatliff et Sandu Chorba.
Et alors. Et il est dans la bande son qui est sortie sur tous les.
Sur toutes les plateformes.
Sur toutes les plateformes.
De bonne qualité.
Oui, et les autres aussi.
Les plateformes de mauvaise qualité.
Ouais.
Arthur H, ce qui est amusant, c'est que petit, vous étiez déjà passionné de musique, vous adoriez les Beatles, mais aussi l'histoire de la commune.
Oui, c'est vrai. Oui.
Là, ça, vous attendiez pas à ça.
Bah, pourquoi, je sais pas, mais c'était... J'avais 10 ans. Hein.
Ouais, et vous avez lu les mémoires de Jules Vallès.
Ouais, et pas que lui, j'ai potassé des gros pavés sur la commune à 10 ans. Pourquoi? Alors ça, c'est extraordinaire quand même, je sais pas. J'allais même nettoyer les tombes des communards au Père-Lachaise. Et à un moment, j'ai eu une médaille d'une délégation communiste vietnamienne. J'avais 10 ans quand même.
C'est la meilleure histoire de ce soir.
Ouais.
Enfin, si je peux me permettre.
Parce qu'il y avait une délégation, ils étaient tous en noir, là, des vieux Vietnamiens communistes, quoi, très officiels. Et puis, ils ont demandé à une femme qu'est-ce que je faisais. Moi, j'étais en train de frotter ma tombe de communard. Et ils m'ont dit, ah, ils nettoient les tombes des communards. Alors, ils étaient émerveillés, ils m'ont donné une petite badge de Ho Chi Minh.
Vous l'avez gardée?
Sûrement, ouais. Peut-être, je sais pas.
Vous vous raillez. Je vous ai demandé une découverte, et c'est le syndrome du savant acquis.
Ah oui.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Le syndrome du savant acquis, c'est ma compagne, Léonore Mercier, qui l'a intégré dans un court-métrage qu'elle va faire. C'est un truc très très rare, qui existe, hein, mais c'est des gens qui ont un choc comme ça, crânien assez profond, comme ça, un gros choc crânien, qui tout d'un coup, après ce choc, développent des capacités cognitives complètement insensées. Par exemple, quelqu'un a ce choc crânien et il va devenir un pianiste classique de haut niveau,
sans jamais avoir
appris le piano. Où il va développer comme ça des connaissances mathématiques de haut vol, ou tout d'un coup apprendre parler des langues étrangères sans les avoir étudiées. Ça s'appelle le syndrome du savant acquis. Et ça concerne, je pense, très peu de gens sur la planète, mais c'est répertorié, ça existe, ça arrive. Et c'est quelque chose qui m'attriste beaucoup, parce que ça fait réaliser qu'il y a très peu de temps dans la vie, et j'ai envie de faire tellement de choses, quoi. J'ai tellement de choses à découvrir.
Vous voulez que vous frappe sur la tête très fort ?
Oui, mais vraiment très très fort.
Comptez sur moi.
Parce que si vous le faites pas assez fort, ça me fera juste mal à la tête. Mais voilà, le syndrome du savant acquis, c'est des gens qui, d'un coup, ont des capacités supérieures. Et voilà, moi j'aimerais bien avoir ça, mais sans avoir mal à la tête.
Bon, je prends la carafe, je fais de mon mieux.
Je me suis auto-engendrée. Bien que juste un papa.
Et pas de maman?
Peut-être que si, mais elle était peut-être un peu volage.
Elle vous a oublié?
dû oublier ce qu'on appelle ses devoirs.
Et ça vous a affecté de quelle manière ?
Pas du tout. Je vivais avec un cheval et mon papa, et en fait je m'appelais Fifi Brin d'Acier.
Fifi Brin d'Acier ?
Voilà, Fifi Brin d'Acier. Bon, je suis un peu un croisement entre Fifi Brin d'Acier, Tati Daniel et... Oh, il y en a une autre, je ne sais plus qui.
Vous êtes une vieille conne, Brigitte Fontaine ? Oui, fière de l'être.
Vieille, je ne sais pas trop. Oui, oui, quand même, plus de 20 000 ans, ça commence à... Je suis une conne, oui, ça c'est sûr.
Et une vieille ?
Ah oui, je suis une vieille.
Bah, vous avez dépassé tout ça, vous avez quel âge maintenant ?
Bon, à peu près 20 000, 10 ans.
C'est Brigitte Fontaine qu'on entend dans L'heure bleue de Laura Adler en 2018. Ouais. Et je crois qu'elle a... Elle compte énormément pour vous et depuis très longtemps, Arthur H.
Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. J'ai cette chance-là d'avoir rencontré Brigitte dès ma naissance, quand j'étais bébé. Et d'ailleurs, elle a plein d'histoires sur moi, de nous deux, quand j'étais petit et tout ça. Ouais. Et, mais c'est sûr qu'elle m'a un peu contaminé avec sa terrible folie qu'on connaît. Et puis maintenant, moi j'aime bien lui faire des câlins, Brigitte, et puis... Ah, elle est tellement exceptionnelle, cette femme. Elle est miraculeuse, quoi. C'est un miracle avec deux pattes, deux grandes pattes dégarnies. C'est notre déesse punk.
Là, vous parlez de miracle. Tout à l'heure, vous avez parlé de magie. En ouverture d'émission, vous avez dit que vous étiez très mystique. Quel est votre rapport, alors, à la foi, à la transcendance ?
Là, je suis en train de décrire les statuts pour fonder une nouvelle religion. Donc, une religion très équilibrée, le hachisme. Le hachisme. Qui n'a rien à voir avec le hachis parmentier. Hein. C'est tout à fait.
C'est pas,
quoique, on peut aussi nier avec le hachis. Mais en rapport à la transcendance, il est que je suis vivant, tout simplement, et que la vie reste, malgré tout, un immense mystère. Dont on n'a pas le moindre début d'explication.
Et vous accommodez facilement du mystère. Dans la BD, vous dites par exemple que l'imprévu nous régénère. Vous aimez le hasard, ne pas contrôler les choses.
C'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais parce que j'essaie quand même de contrôler un petit peu les choses quand même. Mais par contre, oui, c'est vrai que s'abandonner à quelque chose sans contrôler, c'est quand même nécessaire, bien sûr.
Nécessaire, oui, mais c'est rare d'apprécier. C'est pour ça que je le notais. Mais...
Moi, je le cherche beaucoup. C'est vraiment une quête, quoi. C'est une vraie quête.
Merci beaucoup, Arthur H.
Merci, merci.
Ange de Tony Gatliff sort en salle ce mercredi. Votre bande dessinée La solidité du rêve, illustrée par Alfred, est parue chez Casterman. Vous serez sur scène le 3 octobre prochain à Royat, le 6 novembre à Saint-Jean-d'Angély, le 29 novembre à Toulouse, le 22 janvier 2026 à Lens, le 23 à Lille, le 12 mars à Bordeaux. Puis vous serez du 17 au 21 mars au Théâtre de l'Atelier à Paris. Puis je propose de raconter toute la vie qui va se produire dans votre vie les 50 prochaines années avec des dates précises. Mais non, je vais désannoncer. L'émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Louise Morfois et Franck Olivard. Programmation musicale Juliette L'Orphelin, technique Mathias Alléon. À demain, 20h10.